Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il est en première ligne dans la guerre des vaccins entre le Royaume-Uni et l'Europe. L'eurodéputé Pascal Canfin pour un coup de colère contre ces Britanniques qui ne jouent pas le jeu, dit-il. Alors, qui dit vrai ? L'Europe est-elle trop timide ? On en parlera avec lui. 18h30, les polémiques du jour. Faut-il durcir les mesures de confinement face à la flambée de l'épidémie de Covid ? Nos débatteurs ont leur avis. 19h15, la carte blanche de la philosophe Juliette Funès. Coup de cœur ce soir pour le mea culpa d'Angela Merkel. À 19h20, le grand débat du Club des idées. Faut-il avoir peur des géants d'Internet ? Google, Facebook, Amazon et les autres. Vous allez être sidérés de savoir tout ce qu'ils savent sur vous, sur nous. Grand débat ce soir en partenariat avec Courrier International sur ce coup d'État numérique qui menace nos démocraties. On en parlera très longuement, passionnant, avec nos invités. Le journal d'abord avec Christophe Lamarre. Bonsoir.
Bonsoir Julien.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
La vie est quelquefois plus difficile, mais le cinéma permet de réinventer, de faire rêver la vie.
La mort de Bertrand Tavernier, le cinéaste avait 79 ans et laisse derrière lui un immense héritage cinématographique. L'horloger de Saint-Paul, le juge et l'assassin, L627 ou encore Capitaine Conan, portrait d'un des plus grands réalisateurs français.
Oui, Bertrand Tavernier avait reçu 6 Césars au cours de sa carrière, dont le César du meilleur réalisateur pour Capitaine Conan.
Olivier Véran va s'exprimer dans les minutes qui viennent. A priori, pas d'annonce de restrictions supplémentaires, sauf peut-être pour les départements de l'Aube, de la Nièvre et du Rhône.
Toujours la même problématique pour l'exécutif, ralentir la progression de l'épidémie en attendant que la vaccination inverse la courbe. Sauf que les hôpitaux sont débordés et menacent de rompre.
Roselyne Bachelot, toujours hospitalisée, est placée sous oxygénothérapie. La ministre de la Culture a été contaminée par le Covid et vaccinée une première fois le 17 mars.
Les obsèques de Magali Blandin en Ille-et-Vilaine, cette mère de famille de 42 ans, a été assassinée, a priori par son ex-mari. Il a en tout cas avoué les faits.
C'est l'un des animaux les plus connus de la planète. L'éléphant d'Afrique est menacé de disparition pure et simple. Et puis la Bourse de Paris termine en toute petite hausse, 0,09%. À 5952 points.
La météo, Anissa Haddadi, bonsoir.
Bonsoir Julien.
La pluie arrive demain.
Oui, avec une perturbation assez active qui va balayer tout le nord-ouest, avec même des pluies soutenues dans l'après-midi. Ailleurs, ça reste nuageux, mais les températures, elles seront douces, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On peut être à la fois une grande gueule et une signature. Bertrand Tavernier est mort, mais la trace qu'il va laisser dans le paysage français est bien profonde.
Un cinéaste engagé, mais amoureux et défenseur du cinéma classique à la française, de L'Horloger de Saint-Paul, son premier film à Quai d'Orsay, son dernier long métrage. Bertrand Tavernier a abordé plusieurs genres cinématographiques au cours d'une carrière riche de 40 films, Diane Chénouda.
Oui, c'était un cinéaste brillant, puissant, un fou de cinéma, incollable sur le 7e art, une encyclopédie à lui seul comme le montre son dernier doc, remarquable voyage à travers le cinéma français, un amour du cinéma qui remonte à l'enfance. Son premier choc, il l'a à 6 ans, lors d'un séjour en sanatorium devant un film de Jacques Becker.
Je crois que j'étais prédestiné à faire du cinéma, parce que d'avoir son premier choc cinématographique quand on a 6 ans, être épaté par une séquence et découvrir des années après qu'elle est tournée par un des plus grands cinéastes français, on se dit ben, finalement à 6 ans ben, j'étais assez doué, quoi, j'étais en avance quoi.
Bertrand Tavernier se confie à Isabelle Morizet. Il sera d'ailleurs critique avant de devenir cinéaste. Il s'attaque à tous les genres, polars, films d'époque, historiques, et signe un chef-d'œuvre en 81 sur la France coloniale avec Coup de torchon, nommé aux Oscars, et Philippe Noiret dans le rôle-titre, un de ses acteurs fétiches.
Touche pas mon fusil !
T'as plus besoin de ton fusil.
J'ai mon permis de chasse.
T'as plus besoin de ton permis de chasse non plus. Et si je viens traîner mes grolles par ici, comme tu dis, c'est parce que c'est le chemin pour aller voir ta femme. Et on va pas tarder à se mettre au lit tous les deux. Et elle va me donner à moi ce qu'elle t'a jamais donné, pauvre con. Bouge pas !
Il fera de la comédie aussi avec Quai d'Orsay, adaptation hilarante de la BD. Mais avant ça, bien sûr, le capitaine Conan sur l'armée d'Orient perdue dans les Balkans, qui lui vaut le César de la meilleure réalisation, avec Philippe Torreton qui décroche celui de meilleur acteur magistral dans le film.
Mes gars, c'est pas des soldats, c'est des guerriers. Tu leur as crié depuis 14, bien tué, bien zigouillé, continue, tu m'intéresses. Maintenant que t'en as plus besoin pour te planquer derrière, t'as toute une ménagerie de pantins qui se donne des droits, là. Deviens pas flic, Norbert. Deviens pas flic.
Et puis on se souvient de l'APA aussi, bien sûr, et de L627 sur la condition des policiers.
Écoute-moi bien, le rongeur, j'entends encore une fois ton klaxon et je te fais bouffer ta licence, t'as compris? Allez, va coucher. Connard.
Je supporte plus, un de ces jours, je vais en buter un.
Ah, si c'est ton truc.
Bertrand Tavernier travaillait à ses mémoires et à sa collection de livres de western, son autre passion de cinéma.
Diane Feluda du service culture d'Europe 1. Les réactions sont nombreuses ce soir pour saluer la mémoire de Bertrand Tavernier. Nathalie Baye avait joué sous sa direction dans le film Une semaine de vacances. L'actrice est évidemment très émue.
C'est le réalisateur qui m'a offert mon premier rôle principal. C'était un tournage très, très chaleureux, très joyeux, parce que Tavernier avait un enthousiasme et un amour de... non seulement de son métier de réalisateur, mais aussi un amour des acteurs. Bertrand Tavernier, c'était un homme qui... c'était une encyclopédie au point de vue cinéma. Je crois que il n'y avait pas un homme qui était plus au fait de tout ce qui se passait dans le cinéma et l'histoire de tous les films, des réalisateurs. C'était toujours ludique et réjouissant. Il était passionnant et passionné.
Nathalie Baye qui réagissait donc à la disparition à 79 ans du réalisateur Bertrand Tavernier au micro d'Angèle Châtelier. 18h05, on en vient à la crise sanitaire et les signaux qui passent au rouge vif les uns après les autres.
Olivier Véran est en train de faire le point de la situation en ce moment même. Trois départements semblent promis au sort que connaissent déjà trois régions, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec à chaque fois le même constat, les hôpitaux sont débordés. Le taux d'occupation de lits en réanimation dépasse les 100%. Tout est plein en permanence, confirme ce chef de service de l'hôpital Avicenne à Bobigny.
Le Premier ministre est allé s'en rendre compte lui-même sur le terrain à l'occasion d'un déplacement à l'hôpital de Melun en région parisienne. Jean Castex qui s'inquiète de voir des patients de plus en plus jeunes.
Cette situation, elle est extrêmement préoccupante. Il y a un point sur lequel je souhaite insister, que je vois déplacement après déplacement et que j'ai constaté encore cet après-midi à Melun, c'est le nombre de patients de plus en plus jeunes, qui sont admis dans des situations très graves dans les services de réanimation. Preuve que ce variant anglais, dont on savait qu'il était déjà plus contagieux, touche toute la population. C'est aussi incontestablement un variant plus grave et ça fait partie de la réalité de cette épidémie qui évolue en France, en Europe. Vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays qui nous entourent et qui, plus que jamais, nous oblige d'une part à être mobilisés et à nous apprêter à tout moment à prendre les mesures que la situation impose.
Oui, on suivra ensemble évidemment les annonces de Olivier Véran, ministre de la Santé, qui tient en ce moment une conférence de presse. Des nouvelles également de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui est toujours hospitalisée.
Elle a été placée sous oxygénation renforcée. C'est elle-même qui l'indique sur Twitter. Roselyne Bachelot a été vaccinée une première fois contre le Covid le 17 mars. Trois jours plus tard, elle annonçait également qu'elle était contaminée. On n'a surtout pas en tiré de conclusion. Mais docteur Jimmy Mohamed, est-ce que l'on peut déjà expliquer à quoi correspond une mise sous oxygénothérapie?
Alors n'oubliez pas que l'infection à coronavirus donne une pneumopathie, une infection pulmonaire, qui dans un certain nombre de cas peut aboutir à une insuffisance respiratoire. Vous avez besoin d'oxygène pour respirer. On commence avec un petit débit aux lunettes, 1 à 2 litres. Et puis parfois la maladie progresse et vous avez des besoins plus importants. Et on va passer à des débits plus élevés, 5, 6, 10 litres par minute, avec un masque à haute concentration qui nécessite une surveillance rapprochée.
Docteur Jimmy Mohamed, Roselyne Bachelot a été vaccinée le 17 mars, mais on sait qu'elle a été déclarée positive trois jours plus tard. Est-ce que le vaccin n'aurait pas fait surréagir en quelque sorte ses défenses naturelles ?
Il est peu probable de penser que la vaccination ait pu aggraver les choses. En revanche, ce qu'on sait, c'est que lorsque vous venez d'avoir une injection, eh bien vous n'êtes pas protégé avant plusieurs semaines et pas avant la deuxième injection. Ce qui veut donc dire que lorsque vous sortez du cabinet du médecin, eh bien vous pouvez tomber malade dès le lendemain, comme tous les autres, d'autant plus que la circulation du virus est très importante. Mais à ce stade, on ne peut pas établir un lien entre la vaccination et la gravité de sa maladie.
Bien, merci docteur Jimmy Mohamed, qu'on retrouve évidemment tous les jours sur Europe 1 à 15h dans l'émission Sans rendez-vous avec Mélanie Gomez.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugy.
18h10, la suite du journal. Et Olivier Véran confirme donc que trois nouveaux départements passent en confinement. Il s'agit du Rhône avec la métropole de Lyon, de l'Aube, de la Nièvre. Ça concerne au total 2,2 millions de Français. Des Français qui seront, comme les autres Français des 16 autres départements, sous confinement. Ça veut dire commerce non essentiel fermé. Et la règle des 10 km. On y reviendra évidemment tout à l'heure avec les grandes voix. Moins d'une semaine après la découverte de son corps, les proches de Magali Blandin lui ont donc rendu un dernier hommage.
Cette mère de famille de 42 ans a été inhumée cet après-midi à Bain-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Près de 400 personnes ont assisté à ses obsèques. Il y avait là des proches, bien sûr, mais aussi des amis et de simples connaissances, Charles Guyard.
Oui, une cérémonie qui a réuni cet après-midi près de 500 personnes dans et autour de l'église Saint-Martin, sur laquelle était projeté ce même visage rieur qui, mi-février, était apparu sur les avis de recherche. Dans la foule, certains ont d'ailleurs participé aux différentes battues, comme Laurent, un ancien collègue de Magali.
Quand on l'a su, le lendemain, on y va et puis après on se dit « mais je suis en train de rechercher un corps ». Puis voilà, on a appris la nouvelle et c'est dur, ouais. C'est un mauvais polar, quoi, voilà.
Une fiction morbide à l'image de celle que couchait Jérôme Gaillard sur papier, le mari et meurtrier présumé de Magali qui s'imaginait alors en scénariste de films noirs. Dans la vraie vie, l'éducatrice spécialisée de 42 ans, elle, aidait les moins chanceux comme Jocelyn et Ella à s'écrire un avenir.
Aujourd'hui, je suis téléconseillée grâce à elle qui m'a indiqué la voie à suivre.
Quand on vient de quartier défavorisé, nos parents ont du mal à nous emmener en vacances. Et Magali, elle faisait partie de ces éducateurs qui nous emmenaient en vacances. C'était important pour nous d'être là.
Être là pour soutenir la famille dont Céline, la sœur cadette de Magali, c'est elle qui a ponctué la cérémonie.
Magali sera toujours présente dans le cœur.
Un ultime adieu avant le départ vers le cimetière.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 à Nantes. On rappelle que dans cette affaire, le mari de Magali Blandin a été mis en examen et écroué. Il a avoué avoir tué sa femme. Les parents du meurtrier présumé ont également été mis en examen et placés en détention provisoire.
Dans le canal de Suez, les manœuvres se poursuivent pour tenter de dégager un porte-container qui bloque le passage et la navigation. Accident rarissime qui provoque un bouchon et affole les cours du pétrole.
C'est l'un des animaux totems. Quand on pense à l'Afrique, on pense évidemment à l'éléphant. Eh bien, on apprend aujourd'hui qu'il est menacé de disparition.
Oui, l'espèce est en grand danger et l'homme a une grande part de responsabilité. Il y a le braconnage, mais il y a aussi les forêts qui ne cessent de reculer et menacent donc la survie de l'espèce, Virginie Salmen.
Oui, il faut imaginer qu'il y a 50 ans, il y avait 1,5 million d'éléphants dans toute l'Afrique. Au dernier recensement, en 2016, il n'y en avait plus que 400 000, essentiellement au Congo et au Gabon. Et selon les dernières évaluations, eh bien, leur nombre a encore baissé. Alors, il y a deux types d'éléphants d'Afrique. Les éléphants de la savane, dont la population a chuté d'au moins 60% depuis 50 ans et qui vient d'être classée aujourd'hui comme espèce en danger d'extinction. Et les éléphants de forêt, dont la situation est encore plus critique puisqu'ils sont 86% de moins que dans les années 90. Cette espèce vient donc d'être classée non pas en danger, mais en danger critique d'extinction sur la liste rouge officielle des experts de l'Union pour la conservation de la nature. Ce qui veut dire qu'il faut absolument d'urgence arrêter d'abattre des arbres dans les forêts où vivent les éléphants et mettre un terme au braconnage d'ivoire. Il y a un motif d'espoir. Certains pays africains ont des politiques qui fonctionnent, notamment une zone de conservation des éléphants dans le sud de l'Afrique, à la frontière entre 5 pays, dont le Botswana et la Zambie, où les troupeaux d'éléphants de savane sont stables, voire en légère augmentation.
Virginie Salmen, lui, ce n'est pas un éléphant, mais plutôt un aigle. Sa vue est aussi perçante et sûre que ses mains sont agiles. Le basketteur français Evan Fournier, qui évolue dans le prestigieux championnat américain de NBA, rejoint les mythiques Celtics de Boston.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe, on vous retrouve pour le rappel des titres à 18h30. La météo, Anissa, vous nous annoncez un temps pluvieux pour demain. J'ai envie de dire, c'était déjà le cas ce matin en Ile-de-France.
Oui, on a eu des petites averses.
Et vous ne m'aviez pas prévenu.
Ah si, j'avais dit quelques petites gouttes. Bah, ça fait du bien.
Mais oui, c'est vrai.
Bon, alors demain. Dès le début de la journée, demain, sur la Bretagne et la Normandie, le ciel sera vraiment très menaçant avec des petites averses. Et puis au fil des heures, cette perturbation pluvieuse va balayer tout le quart nord-ouest avec de la Vendée jusqu'aux Hauts-de-France, de la pluie sur la Normandie, le Cotentin, la pointe bretonne. Et parfois, les pluies seront même soutenues sur le reste du pays et en particulier sur la moitié nord. Attention, écoutez bien Julien, ça vous concerne, attention au brouillard. Demain, ils seront nombreux sur le centre-Val de Loire, la région parisienne et le Grand Est. Donc, brouillards qui vont très vite se dissiper. Et l'après-midi sera partagé entre nuages et éclaircies. C'est une journée mitigée, très oui. Mitigée. Et l'arrivée des averses dans le Grand Est. Les températures, elles ne bougent pas. Elles sont stationnaires et toujours douces, avec 1 à 10 degrés demain matin. Puis dans l'après-midi, on aura 11 à Cherbourg, 13 à Lorient, 14 à Caen, 15 degrés à Rouen, 16 pour Paris, 17 à Besançon et Strasbourg, et jusqu'à 20 degrés dans le sud à Cahors et Albi.
Bien, plan pluie soutenue. Hein, soutenu.
Dans
ça
le nord-ouest.
Grosse pluie.
Dans le nord-ouest, grosse pluie.
Ça veut dire quoi, soutenu?
Grosse pluie.
Grosse pluie, voilà. Grosse pluie. Non, mais il faut être clair, Anissa.
Oui, je suis.
Bon,
grosse pluie.
Merci, à tout à l'heure, 18h30.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Ce soir, notre invité à 18h19, il est eurodéputé, président de la commission en charge de la santé publique, et il pousse aujourd'hui un coup de gueule contre les retards de livraison du laboratoire AstraZeneca. Bonsoir, Pascal Canfin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. On a beaucoup de questions ce soir à vous poser. D'abord, vous êtes un responsable politique, évidemment. Vous avez aussi une vue d'ensemble depuis Bruxelles. Olivier Véran vient donc d'annoncer la mise sous cloche de 3 nouveaux départements. Est-ce que vous estimez que c'est assez ou qu'il faut un confinement plus strict et généralisé, comme le réclament certains, pour évidemment freiner la flambée de l'épidémie?
Écoutez, ce que je constate, c'est que même dans les pays qui ont un confinement plus strict, comme l'Allemagne, comme l'Irlande, où les écoles sont fermées depuis des mois, eh bien, le virus continue de progresser et de circuler, notamment à cause des variants. Et donc, je pense que, comme on l'a dit de manière très claire, chaque jour gagné sans confinement est un jour gagné pour notre santé mentale, pour notre économie, pour nos emplois. Et donc, tant qu'on peut tenir avec des mesures qui sont certes désagréables au quotidien, et j'en ai parfaitement conscience, mais qui ne sont quand même pas équivalentes à la fermeture de toute l'économie et notamment des écoles, il faut le faire.
Bien.
Et je constate que, par exemple, Angela Merkel, qui a voulu mettre en place pour le grand week-end de Pâques à une fermeture complète de l'Allemagne, a dû, dans la nuit, quelques heures après avoir annoncé ça, revenir en arrière.
Et elle s'en est excusée, d'ailleurs, ça a beaucoup frappé les esprits. Alors, sur les vaccins, Pascal Canfin, qui est donc votre sujet, puisque vous êtes le monsieur vaccin du Parlement européen, qu'est-ce qui ne fonctionne pas en Europe? On nous avait dit à 27, on sera plus fort, et quand on regarde les chiffres, c'est plutôt l'inverse. En Grande-Bretagne, la moitié des adultes sont vaccinés, ça y est, 100 millions de personnes vaccinées aux États-Unis, l'immunité collective quasiment en Israël, et nous, on rame derrière. D'ailleurs, Emmanuel Macron disait hier, on a été trop timide, on aurait dû être plus ambitieux, c'est pour ça qu'on n'a pas assez de vaccins. Quel aveu d'échec tout de même!
Alors, je ne vais pas vous dire que la situation est parfaite et que c'est un chemin de pétale de rose, bien évidemment. Néanmoins, il faut se mettre dans la situation où si nous n'avions pas fait les contrats à 27, passer ensemble pour avoir les mêmes prix, les mêmes conditions avec les laboratoires pharmaceutiques, ça veut dire qu'à l'inverse, nous serions en concurrence permanente entre nous. Et donc, on passerait notre temps à dire « Ah, mais les Allemands ont 300 000 doses de plus et les Italiens, etc. » Ce serait encore plus chaotique.
Oui.
Je ne vous dis pas que c'est parfait maintenant, mais ce serait encore plus chaotique.
Mais Pascal Canfin, comment expliquer ce qui est incompréhensible quand même pour le commun des mortels, c'est que l'Europe a une puissance d'achat unique. En Occident, l'UE, ce sont 450 millions d'habitants. Comment vous pouvez expliquer qu'on n'ait pas été mieux servi par rapport aux autres pays?
Alors, on a acheté de quoi vacciner 1 milliard d'Européens.
Oui.
Donc, on a acheté un portefeuille de vaccins qui est le plus complet au monde. Donc, nous n'avons aucun problème de commande. On a mis l'argent sur la table. Le problème, c'est la production. C'est la production. C'est-à-dire que ni AstraZeneca...
Enfin, les Américains n'ont pas ce problème de production, visiblement.
Exactement. Ce sont d'autres usines, d'autres lignes de production, et je le constate, vous avez parfaitement raison, les usines américaines parviennent à produire plus de vaccins que les usines qui sont situées en Europe. Ça, c'est le premier point.
Oui.
Le deuxième point qui a été révélé aujourd'hui par la Commission européenne, c'est que nous avons exporté 70 millions de doses de vaccins. Nous sommes les seuls au monde à avoir exporté des doses, alors que les Britanniques, les Américains ont une interdiction d'exportation.
Pascal Canfin, il faut expliquer ce que vous êtes en train de dire à nos auditeurs et à nos auditrices, parce que on a des usines de production de vaccins sur le sol européen, et vous êtes en train de dire qu'on produit des vaccins qu'on exporte aux autres pays et aux autres continents du monde.
Vous citez les Britanniques. 40 millions de doses ont été exportées de l'Union européenne vers le Royaume-Uni.
40 millions.
Combien de doses ont été du Royaume-Uni vers l'Union européenne? Zéro.
Attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, Pascal Canfin? Ça veut dire que les Britanniques nous piquent nos doses?
Je suis en train de vous dire que l'Union européenne, depuis le début de cette crise, a joué collective. Elle n'a pas joué le nationalisme vaccinal des autres, que ce soit des Américains, que ce soit des Britanniques.
Oui.
Et toutes les doses, l'immense majorité des doses, pardon, vous citez Israël, qui ont été injectés en Israël, ont été produites en Europe. Et nous n'avons pas, jusqu'à présent, et quand je vous dis jusqu'à présent, c'est maintenant, puisque nous avons pris hier la décision d'arrêter, de mettre en place un système qui contrôle les exportations, voire qui les interdit, de façon à arrêter cette situation où nous sommes les seuls à jouer collectif.
Oui.
Et c'est une situation qui n'est pas tenable, parce que vous avez raison, on ne peut pas expliquer aux Européens de dire que finalement les usines européennes qui produisent, c'est pour les autres.
Bien.
Donc on arrête.
L'affaire Pascal Canfin,
et
des doses...
on va produire davantage pour nous.
On va produire davantage pour nous, c'est important de le dire. L'affaire des doses AstraZeneca, le laboratoire devait livrer 30 millions de doses à l'Europe au premier trimestre, hein, nous y sommes, c'est la fin du premier trimestre dans 6 jours, et aujourd'hui il en manque 11 millions de ces doses, elles sont où?
Ah ben elles sont, alors, il y a deux options. Soit elles sont dans les 70 millions que nous avons exportés.
Oui.
D'accord ? C'est-à-dire ça, c'est
donc
une étude.
Non,
nous n'aurions pas dû exporter ces doses. Vous savez, c'est toujours pareil. Si on joue un jeu collectif parce qu'on considère que c'est une crise mondiale et que l'objectif est de vacciner tout le monde, parce que c'est que comme ça qu'on s'en sortira, c'est l'inverse du nationalisme vaccinal. Et on peut être fier de ça. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être les seuls à jouer ce jeu-là.
Oui.
Et comme nous n'avons visiblement pas réussi à changer le nationalisme britannique sur ce sujet non plus, et bien maintenant, dorénavant, et c'est la nouvelle règle du jeu qui s'applique dès aujourd'hui, nous n'exporterons plus de doses à l'extérieur de l'Union européenne que dans des pays qui ont eux-mêmes un contrôle des exportations.
Bien.
C'est le cas au Royaume-Uni.
C'est une mesure,
nous n'exporterons plus de doses au Royaume-Uni.
C'est une mesure forte que vous annoncez et une accusation forte que vous portez envers nos amis britanniques. Ça veut dire qu'on va fermer le robinet au Royaume-Uni. On n'exporte plus de doses à destination du Royaume-Uni.
Ça veut dire, donc, nous avons deux principes. Le premier principe, c'est la réciprocité. Le deuxième principe, c'est la proportionnalité. Ça veut dire que vis-à-vis d'un pays comme le Royaume-Uni, qui n'exportent aucune dose qu'ils fabriquent au Royaume-Uni et ils gardent, entre guillemets, passez-moi l'expression, tout pour eux, eh bien alors nous allons appliquer la même règle et
bien,
nous n'exporterons plus rien vers le Royaume-Uni. C'est juste équitable.
Bien.
Tant pis, c'est comme ça, c'est triste, c'est malheureux, parce que ça veut dire que nous n'avons pas de bonnes relations, mais tant pis, c'est comme ça, on en a marre de se faire avoir, si vous me permettez cette expression.
J'ai compris, on a envie de dire... peut-être que de temps perdu, mais c'est une autre histoire. Un dernier point, il nous reste quelques secondes. Le commissaire européen Thierry Breton, dimanche dernier, a dit sans détour, nous n'avons pas besoin du vaccin russe. Alors qu'Angela Merkel, elle dit, s'il est validé, bah, l'Allemagne pourrait en commander. Là aussi, double discours.
Encore une fois, non. C'est-à-dire que si le vaccin russe est autorisé par l'Agence européenne des médicaments, bien évidemment, il sera livrable dans l'Union européenne.
C'est pas ce qu'a dit Thierry Breton. Thierry Breton a dit nous n'avons pas besoin du vaccin russe.
Justement. Il a dit nous n'avons pas besoin, non pas parce qu'il ne serait pas autorisé, s'il est autorisé, il peut être livré. Simplement, comme je vous le disais au début de cet entretien, nous avons commandé 1 milliard de quoi vacciner, 2 milliards de doses, de quoi vacciner 1 milliard d'Européens. Donc le problème n'est pas de faire des commandes supplémentaires. Le problème, c'est de produire pour livrer les commandes que nous avons faites.
Bien.
Or, il se trouve que derrière la communication politique de la Russie, il n'y a pas de doses. Il n'y a pas de doses. Sputnik, c'est un vaccin théorique qui n'est quasiment pas produit, y compris pour les Russes. Et donc c'est une opération de communication politique, sympathique, mais qui n'a aucun effet d'entraînement concret sur la multiplication de notre capacité à injecter des doses pour vacciner les Européens.
Bien.
Donc le sujet, et Thierry Breton a parfaitement raison, c'est produire plus sur les vaccins déjà autorisés et dans des productions européennes. Et alors nous arriverons à nos objectifs, vacciner 70% des Européens adultes avant l'été.
On l'espère. Merci de cette mise au point, Pascal Canfin. Merci d'avoir été avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bouchy.
18h30, passé de 1 minute, le rappel de l'info avec Christophe Lamarre.
Le Rhône, l'Aube et la Nièvre passent en mode confinement comme prévu, annonce il y a quelques minutes du ministre de la Santé Olivier Véran. Les restrictions sont les mêmes que celles qui s'appliquent déjà en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un sommet européen pour résoudre la crise sanitaire et mettre fin à la guerre des doses. L'Europe veut pouvoir bloquer les exportations des vaccins anti-Covid vers les pays qui ne respectent pas le principe de réciprocité. Dans la ligne de mire des 27, Londres et le laboratoire AstraZeneca accusés de ne pas respecter leurs engagements. Le retard pris par l'Union européenne dans la vaccination pourrait coûter 123 milliards d'euros avec près de 2 mois de retard sur les temps de passage. L'objectif de 70% de la population vaccinée avant l'été paraît de plus en plus improbable selon les calculs de l'assureur crédit Euler Hermès.
Merci Christophe, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un journal complet. La météo avec Anissa, le retour des nuages, ça se confirme pour demain.
Oui, en particulier dans le nord-ouest, Julien, avec des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par la Bretagne et la Normandie. Une perturbation pluvieuse assez active avec des pluies parfois soutenues, de la grosse pluie sur les côtes de la Manche. Le vent souffle en rafale jusqu'à 80 km/h. Partout ailleurs, on a un temps partagé entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont douces. 0 à 10 degrés demain matin et 11 à 21 degrés au meilleur de la journée. 12 à Brest, 14 à Biarritz, 16 à Paris et 21 la maximale pour Auch ou encore Albi.
Merci Anissa, à tout à l'heure, 19h.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés, Michel Cotta. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'Opinion. Bonsoir Ivan.
Bonsoir.
Pascal Perrineau, politologue. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Alors on revient ensemble évidemment sur la situation sanitaire qui s'accélère, vous l'avez compris. Quelle bonne stratégie adopter désormais? Le ministre Olivier Véran a confirmé à l'instant que 3 nouveaux départements passaient donc en confinement partiel. Mais certains demandent d'autres mesures d'urgence face à la saturation dans les services de réanimation. Alors le ministre de la Santé a expliqué que pour l'instant, un confinement généralisé, nationalisé, strict était exclu.
Un confinement généralisé, d'abord, vous le savez, c'est un niveau de contrainte extrême pour des Français épuisés de lutter sans relâche depuis un an. C'est une décision qui ne se prend que lorsque toutes les autres options n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie. Surtout, il est trop tôt pour juger si les mesures sont efficaces et suffisamment efficaces. D'ailleurs, comme pour les deux premières vagues, souvenez-vous, il a fallu une grosse semaine pour que l'incidence commence à baisser après la mise en place du confinement, et plus de 2 semaines pour qu'on en mesure l'impact sur les hospitalisations et les réanimations.
Séquence compliquée, Pascal Perrineau, en ce moment-là, pour le gouvernement. Il y a plein de choses à dire, on va y revenir. D'abord, est-ce que c'est tenable, cette politique du non-confinement généralisé à long terme? Parce qu'on voit bien qu'il y a une pression de la part des services hospitaliers, une pression des épidémiologistes, des médecins, des réanimateurs très forte.
C'est tenable, mais c'est difficile. C'est tenable parce que vous vous apercevez, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, que pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement de la popularité du gouvernement, du président de la République, mais il y a cependant un net tassement. Deuxième variable, une majorité de Français est en faveur d'un retour à un confinement relativement strict. C'est une constante. Depuis un an, les Français sont souvent, une majorité de Français, est sévère avec elle-même sur ce terrain du confinement. Mais il y a aussi l'idée que le pouvoir politique ne peut pas faire intervenir uniquement des critères sanitaires. D'ailleurs, on le voit bien dans le discours d'Olivier Véran. Il y a des critères politiques, il y a des critères économiques, il y a des critères sociaux et des critères psychologiques. Parce que ces Français qui réclament parfois le retour à un confinement extrêmement strict, ils sont en train de déprimer et de déprimer gravement.
On est peut-être, Michel Cotta, là, à un tournant du quinquennat. Un tournant du quinquennat parce qu'on voit que tout l'échafaudage qui avait été installé, toute la stratégie qui avait été mise en place par l'exécutif et par le président de la République est en train de s'effondrer, de prendre l'eau toute part.
Je ne dirais pas de s'effondrer, mais en tout cas d'être mise à mal. Bon, il y a une course de vitesse. Emmanuel Macron avait déclenché une course de vitesse entre le vaccin et la maladie. Bon, là-dessus, il a eu effectivement des revers considérables, y compris moins de vaccins que prévu, etc. Mais ça reste encore, s'il n'y a pas de confinement, et si quand même on se sort de cette vague, ça reste encore possible. Oui. Moi, je pense que, et puis quand on voit l'exemple de Merkel, comme on l'a vu, qui a voulu trop confiner et qui s'est excusé de l'avoir fait, ce qui est inenvisageable en Allemagne, enfin, c'est la première fois. On se dit, si quand même, il y a du retard, mais s'il en sort, bon, ça va. S'il n'en sort pas de cette pandémie ou s'on est obligé de reconfiner, je crois, qu'il sera tout à fait mis en cause lui-même. Et personnellement, tout le monde sait c'est lui qui est partisan de cette stratégie. Il a peut-être raison, il a peut-être tort, mais c'est lui qui est partisan de cette stratégie.
Là, l'effet lui donne plutôt tort en ce moment. C'était un pari qu'il a pris.
Il paiera la note si ça ne marche pas.
Voilà. Ivan Trippenbach, il y a aussi un problème de communication. C'est-à-dire qu'on a vu un peu tout et son contraire là, en l'espace de 4 jours. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans cette situation-là.
Oui, absolument. Et le gouvernement voulait se sortir de cette semaine noire. Hein. Et rappelez-vous, en une semaine, tout a changé. La semaine dernière, il était critiqué essentiellement pour le grand flou autour de ce confinement, non-confinement. On a vu les ministres défiler pour essayer de définir ce qu'étaient ces mesures. On a vu le Premier ministre changer de slogan, enfin définir un slogan pour mobiliser la population. Donc il y avait énormément de critiques sur ces non-décisions, ou en tout cas cette forme hybride de confinement. Et aujourd'hui, la pression s'accentue, notamment parce que les preuves des faits est là.
Oui, et puis il y a aussi cette idée qu'on fait payer un peu d'une certaine manière aux Français ce confinement ouvert. C'est-à-dire que quand Jean Castex prend la parole il y a tout juste une semaine avec l'idée de responsabiliser les Français, sortez dehors, faites vos activités dehors. Et puis 48 heures plus tard, on nous dit, mais si vous êtes plus de 6, attention, vous allez prendre 135 euros d'amende. Là aussi, on a du mal à suivre, Pascal Perrineau.
Oui, oui, on a du mal à suivre et on a du mal à suivre depuis un an. Hein. Oui, c'est pas tout à fait récent. Mais à partir du moment où le pouvoir a décidé, de manière claire, d'utiliser une stratégie qui est évolutive et territorialisée, c'est très difficile d'avoir une communication. On est habitué, nous, la France, c'est la même chose, de Lille à Marseille, Brest à Strasbourg. Et on est un peu perturbé.
Mais ça, c'est plutôt une bonne stratégie.
Je crois
que la
stratégie territorialisée est une bonne stratégie. Mais on voit bien que les réglages se font forcément au jour le jour.
Oui.
Et que c'est assez difficile de communiquer pour une partie de la France, d'expliquer quelles sont les règles dans une partie de la France, alors qu'elles sont très différentes à quelques départements plus loin.
Bien, on se retrouve dans quelques secondes, 18h38. On continue d'en parler, évidemment, parce qu'il y a plein de choses encore à dire sur cette séquence sanitaire et politique. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h39, la suite du débat des grandes voix du jeudi, avec toujours Michel Cotta, Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'opinion, et le politologue Pascal Perrineau. Que peut faire maintenant Michel Cotta, le gouvernement? Quelle est l'échéance? Quelle est la prochaine échéance? Est-ce qu'il pourra tenir ces fameux 15 jours? Vous savez, on dit qu'il faut 15 jours entre le moment où on prend des mesures et le moment où elles se mesurent dans les hôpitaux, dans la circulation de la population et du virus.
Vous avez raison. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas atteint encore le niveau de l'année dernière et que donc il y a effectivement une marge. Moi, je ne sais pas jusqu'à quand le pari, comme ça, peut être maintenu. On nous dit dans une semaine, puisqu'on aura peut-être les effets de ce confinement qui n'en est pas un. Moi, je doute de ces effets. Mais enfin, je ne suis pas médecin, je ne suis pas à leur place. Je suis simplement, je regarde autour de moi, c'est tout.
Oui.
Donc, il y a quand même le gouvernement. Il y a même, au fond, est-ce que je dis le gouvernement risque? Non, le président risque d'être confronté à une vérité médicale qui lui échappe. Voilà.
Alors, il y a la question des écoles, dont il est beaucoup question là, depuis 2-3 jours, depuis que l'épidémie repart en flèche. C'est vrai que la fermeture des écoles, pour l'instant, est exclue. C'est ce qu'a rappelé Olivier Véran lors de sa conférence de presse il y a quelques instants.
Pourquoi est-ce que nous maintenons les écoles ouvertes? La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nous ne nions pas que le virus peut aussi se transmettre à l'école, puis de l'école vers les familles. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous travaillerons à des protocoles sanitaires renforcés en sus de ceux qui sont déjà mis en place dans les établissements scolaires. Toute la communauté éducative veille à ce que la vie dans les écoles, les collèges et les lycées puissent continuer, en limitant au maximum les risques de transmission.
Alors là aussi, hein, c'est le festival des propositions. Ivan Trippenbach, il y a Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui dit par exemple, en Île-de-France, il faudrait avancer les vacances de 15 jours et les faire commencer le 2 avril. Bon, c'est un peu après-demain le 2 avril, parce que ça va arriver très vite. Et c'est déjà la proposition qui avait été mise sur la table, souvenez-vous, au moment des vacances de février et avant ça, au moment des vacances de Noël. On n'avance pas beaucoup.
Non, on n'avance pas beaucoup, mais comme quoi on n'a pas seulement des critiques qui émanent des oppositions, on peut aussi avoir des propositions en anticipation. Et Valérie Pécresse est assez habile en ce sens-là, parce qu'elle cible la grande fierté du gouvernement, qui était un peu l'exception française de garder les écoles ouvertes et de poursuivre l'éducation. Si Olivier Véran, si le gouvernement est obligé de renoncer à l'ouverture des écoles, ce sera un échec supplémentaire après l'échec du pari d'Emmanuel Macron de janvier, selon lequel la troisième vague n'arriverait pas.
Oui.
Et puis ce nouveau pari, surtout sur l'accélération de la vaccination.
Vous comprenez, Pascal Perrineau, la logique de ceux qui disent qu'il faut fermer les écoles? Parce que moi, il y a un truc qui m'échappe là-dedans. Les écoles, les enfants, a priori, ont le masque. Alors, on sait que les enfants font moins attention que les adultes. Il y a des contaminations, hein, c'est ce que montrent les chiffres. 15 000 élèves positifs la semaine dernière contre 9 000 la semaine d'avant. Mais à ce moment-là, soyons logiques. Si on ferme les écoles, il faut fermer les entreprises aussi. Il faut fermer tous les lieux dans lesquels il y a des rassemblements.
Bien sûr. Et à ce moment-là, on retourne, au confinement version très hard, qui était le confinement d'il y a un an. avec les coûts psychologiques, économiques et sociaux vertigineux de ce type de confinement. Hein. Mais d'autre part, je comprends d'une certaine manière que le pouvoir soit très préoccupé par cette question de l'éducation. Parce que c'est vrai que c'est au-dessus de 50 ans que les gens sont plus touchés que d'autres par la progression de l'épidémie, même si les jeunes maintenant ne sont plus à l'abri. Mais on voit bien que les jeunes, même lorsqu'ils sont, j'allais dire, en bonne santé physique,
oui,
souffrent énormément de la déstructuration de la relation pédagogique. Vous voyez, moi, je suis professeur. J'ai des étudiants. Je n'ai jamais vu, depuis 40 ans que j'enseigne, une population étudiante aussi préoccupée, aussi inquiète et, disons-le, en mauvais état psychologique. Mmh. Donc, il y a un coût là qui est un coût qu'il faut prendre en compte.
Qu'il faut prendre en compte. Alors, tout ça relance aussi, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, Michel Cotta, mais tout ça relance aussi le débat sur les moyens de l'hôpital. On en parle régulièrement ici dans les grandes voies. Ça fait un an. Je prends un exemple très concret. Ça fait un an qu'on nous dit qu'on ne peut pas former des réanimateurs en 6 mois. Et puis, on apprend maintenant qu'on va former en accéléré des infirmiers, des étudiants en médecine, parce qu'on en a besoin, pour prêter main forte aux équipes de réa. 3 jours seulement de formation, c'est peu. Mais on est en guerre. Comme
ça dépend pourquoi. Mais
pour assister les professionnels de réanimation, pour délivrer les bases et permettre d'être vite mobilisable en cas de renfort. Mais ma question n'est pas celle-ci. En un an, on a formé 800 personnes. Et là, on va former 1000 personnes en 3 semaines. Ne fallait-il pas le faire avant, si on est en guerre?
Oui, évidemment, on peut toujours dire ça. C'est très facile de...
Non, mais c'est un sujet dont on parle souvent, Michel Cotta. Parce que ça fait un an qu'on sait qu'il y a un problème de lit de réanimation et de personnel.
Oui.
Et c'est vrai que les Français ont le sentiment qu'un an après, les choses n'ont pas beaucoup avancé.
Non, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas le problème des lits de réanimation qui se pose le plus, c'est le problème des personnels soignants, d'autant que beaucoup sont atteints.
Oui.
Parce que ça aussi, ça n'existait pas il y a un an. Beaucoup sont atteints et par conséquent ne sont pas disponibles, puisqu'on a même vu que des gens atteints du virus étaient à l'hôpital, ce qui est quand même le comble. Donc c'est ça qu'il fallait éviter, évidemment. Alors est-ce que c'est... Oui, il aurait fallu le faire dès le début. Et puis oui, il devait y avoir une manifestation volontaire qui s'est passée d'ailleurs avec les médecins et tout ça, qui s'étaient mis, les retraités qui s'étaient mis. Bon.
Oui.
Et c'est vrai qu'on n'y a plus ce... On n'a plus ce courant aujourd'hui, cet élan aujourd'hui. Il y a quand même une lassitude générale qui est sur tout le monde. Quoi.
Ouais. Ivan Trippenbach, peut-être un mot sur les moyens de l'hôpital?
Oui, sur la lassitude, c'est frappant. Effectivement, on a aucun message mobilisateur en fait, du gouvernement depuis une semaine. Et quand on voit la conférence d'Olivier Véran ce soir, c'est frappant. Il est sur la défensive, il a l'air inquiet en réalité. Alors qu'il aurait pu profiter de cette troisième phase en fait, pour lancer les Français vers la vaccination et vers des images positives comme celle des vaccinodromes, par exemple.
Quel changement de pied ! Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, on nous parlait de la mi-avril comme d'un possible retour au début de la vie d'avant.
Exactement.
On en est loin aujourd'hui. On marque une pause, on va parler d'autre chose, ça fait du bien aussi. La politique ! Vous allez voir qu'il y a des raisons d'espérer. 18h46, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Buchier.
La suite des grandes voix du jeudi, Michel Cotta toujours avec moi en studio, Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'Opinion, et Pascal Perrineau, le politologue. Alors justement, Pascal, on va parler politique avec la revanche des figures de l'ancien monde. Xavier Bertrand, qui annonce hier sa candidature pour 2022, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, qui serait aussi sur la ligne de départ, ou encore, tiens, Manuel Valls, plus présent que jamais dans les médias. C'est le retour de l'ancien monde, en somme ?
Oui, d'abord, ça pose la question de la pertinence de cette opposition binaire quelque peu simpliste entre l'ancien monde et le nouveau monde. Parce que très vite, ceux qui se présentent comme étant le nouveau monde s'usent et s'usent à vitesse grand V. Il suffit, on vient de parler du président dans la crise sanitaire, économique, sociale, culturelle que l'on traverse. Maintenant, qui appartient au nouveau monde ? Vous voyez, ça serait extrêmement difficile d'y répondre. D'autre part, la politique, qu'on le veuille ou non, c'est un métier. Ça demande un apprentissage. Il faut être assez souvent élu local, apprendre le métier, subir des défaites, connaître quelques victoires. Et peu à peu, ce métier rentrant, eh bien, on peut rentrer dans la cour des grands, qui en France reste la cour de la présidentielle. Donc, qu'il y ait, si vous voulez, ce retour de quelques anciens, qui d'ailleurs ne sont pas si anciens que ça quand on regarde l'âge de leurs artères. Hein, prenons par exemple Manuel Valls, ce n'est tout de même pas un vieillard cacochime. Même chose pour Madame Pécresse, etc. Hein. Donc, il y a là quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'en dépit, en effet, de l'inquiétude, de l'obsession des Français sur l'affaire de la Covid, on revient un peu tout de même aux élections et tout simplement à la démocratie.
Ouais, aux fondamentaux. Alors justement, voilà. Tiens, je voudrais votre avis, Michel Cotta, sur Manuel Valls. En 2017, dit-il, on nous a fait la promesse d'un nouveau monde, cette promesse d'une nouvelle pratique politique, d'une réforme permanente, s'est fracassée avant même la pandémie. C'est assez cinglant pour celui qui a essayé un moment de se rapprocher d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Alors il dit ça aujourd'hui, Manuel Valls. Il dit, tiens, Anne Hidalgo, je trouve sa démarche intéressante. Et puis il dit... la démarche de Xavier Bertrand, ben je la trouve intéressante aussi. Alors, quel rôle peut-il jouer Manuel Valls et qui va-t-il soutenir ?
Je ne suis pas sûre qu'il ait un rôle si facile, hein, parce qu'il est quand même, il a été très, très repoussé par les socialistes à tort. Mais,
oui. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce qu'on peut l'imaginer faire alliance avec un candidat tel que Xavier Bertrand ?
Si vous voulez, j'ai l'impression que la gauche est déjà tellement, tellement divisée que la perspective d'une nouvelle candidature est improbable. Mmh. Bon, en revanche, on voit comment à droite, c'est effectivement le premier qui a joué sans attendre les primaires, sans attendre le parti. C'est
Xavier Bertrand,
un représentant des territoires.
Oui, et sans attendre d'ailleurs les régionales également. Ivan Trippenbach, comment vous sentez le retour de ces j'allais dire les barons, de ces
anciens.
De ces anciens.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils essaient d'apparaître un petit peu comme le futur monde de 2022, parce que même s'ils n'étaient pas partis de la scène politique, à l'exception de Manuel Valls, beaucoup jouent sur le thème « j'ai appris, je n'ai pas été assez moi-même ». C'est un petit peu ce que dit Xavier Bertrand et ce que dit Manuel Valls, d'ailleurs, dans son interview au Point. Et du coup, ils essaient d'insuffler quelque chose d'un peu nouveau pour retourner le dégagisme contre Emmanuel Macron.
Oui.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que le clivage gauche-droite n'a jamais disparu. Il suffit de voir en fait comment fonctionne la majorité présidentielle, qui est déchirée entre une aile droite, une aile gauche sur nombre de sujets sociétaux, notamment comme l'immigration, la laïcité, la République. Voilà, ce sont des sujets qui divisent profondément la majorité et qui dépeint aussi la manière dont Emmanuel Macron va mener campagne avec des flotteurs à gauche, des flotteurs à droite.
C'est vrai ça, Pascal Perrineau, il y a toujours un clivage gauche-droite parce que parfois on a l'impression que les deux chevauchent.
Oui, le paysage est brouillé, mais c'est vrai que le clivage gauche-droite, il a deux siècles. Donc qu'il fasse de la résistance ou de la résilience, si vous voulez, c'est assez normal quand vous interrogez les Français, même s'ils ne voient plus très bien à quoi ça sert. Ils ont encore un sentiment d'appartenance souvent à la droite et à la gauche, même si le clivage entre quoi d'ailleurs ? Entre les nationalistes et ceux qui se présentent comme étant les progressistes est un clivage qui s'est imposé et qui a cassé.
Ivan Trippenbach a raison sur un point. C'est vrai que sur les questions de société, il restait un clivage. À ceci près, je prends l'exemple de Xavier Bertrand, qui était d'ailleurs opposé au mariage pour tous, qui refusait de célébrer d'ailleurs comme Gérald Darmanin des mariages homosexuels, et puis aujourd'hui qui est converti. Donc en fait, souvent les tenants de la droite finissent par s'approprier les évolutions de société.
Oui, parce qu'ils sentent en effet que les grandes évolutions sociétales qui ont été initiées la plupart du temps par la gauche correspondent à une demande sociale. Mmh. Et qu'au fond, on l'a vu avec le mariage homosexuel, on l'avait vu jadis avec l'interruption volontaire de grossesse. Ben voilà, il y a une majorité de Français, en particulier en dessous de 50 ans, qui s'y rallient. Et donc, ils suivent le mouvement.
Oui. Hein,
ils suivent le mouvement et évitent d'avoir ça comme un poids mort dans leur programme pour essayer de rencontrer la société telle qu'elle est aujourd'hui.
Alors, la ligne de fracture gauche-droite, elle repose sur quoi aujourd'hui, Michel Cotta, selon vous ?
Elle repose, par exemple, sur l'UNEF, par exemple. Si on voit très bien qu'une partie de la gauche reste encore persuadée que c'est normal.
Anne Hidalgo a critiqué. Aurélie Filippetti a pris position en disant...
Non, mais on voit bien comment la gauche... Je n'ai pas dit que la gauche était unie contre, mais je dis qu'une partie de la gauche et une partie de la droite qui pourraient objectivement être ensemble se ressent. Chacun ont une famille. Il y a un livre publié par Jeanne Mossulaveau dans votre...
Aux presses de Sciences Po.
La Sciences Po, qui est vraiment évident de ce point de vue-là. C'est vrai que dans chacun de nous, l'attitude de gauche, l'attitude de droite est quelque chose même qui échappe à la pure raison,
oui,
qui est motivée par des tas de sentiments, des tas de sensations qui disent je suis à gauche, qui amènent les gens à dire je suis à gauche, je suis à droite, et au fond il n'y a pas tellement, peut-être, mais ça existe quand même.
Est-ce qu'il est en train, on terminera par ça, Ivan Trippenbach, est-ce qu'il est en train de plier le match, Xavier Bertrand, en annonçant officiellement, parce qu'il l'avait déjà dit, sa campagne, qu'il est candidat à l'élection présidentielle avant les autres, et puis qu'il ne passera pas par la primaire.
C'est un petit peu tôt pour le dire, mais ce qui est certain, oui, c'est qu'il essaie de s'imposer à son camp comme le candidat naturel du bloc de droite. Mais on a aussi Valérie Pécresse qui est à 2 points d'écart seulement de lui dans les sondages. Donc tout est ouvert encore, il est vraiment très tôt. Ce qui est certain, c'est que les partis, eux, si le clivage gauche-droite demeure, les partis, eux, sont morts, en fait, sont essoufflés. Et on le voit justement parce que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont quitté les Républicains. Mais on a aussi Emmanuel Macron qui veut... aller vers le dépassement, et Marine Le Pen qui souhaite se mettre en retrait de son parti pour la présidentielle.
On a encore un an pour en parler. La présidentielle, si elle est maintenue, parce qu'on sait plus de quoi demain sera fait maintenant. Mais j'espère
ça commencera par les régionales, d'ailleurs.
Mais j'espère qu'on ne sera pas confinés d'ici 2022. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir animé et écouté le débat des grandes voix.